Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Mina Fézy, réalisée par Charlotte Roux, à la prise de son ce soir, Pierrick Monsigny. Ce sera la première traduction concrète des engagements pris par le chef de l'État la semaine dernière lors de sa conférence de presse. François Hollande inaugure demain le Conseil stratégique de la dépense publique, un organisme prévu pour se réunir une fois par mois et qui aurait sans doute mérité un nom de baptême plus complet, par exemple Conseil stratégique de la réduction de la dépense publique, puisque tel est bien désormais l'objectif prioritaire du gouvernement, faire des économies, un maximum d'économies. Combien précisément? Eh bien, ce n'est pas précis, justement. 50 milliards d'euros minimum, sans doute plus donc, sur la période 2015-2017, pour ramener le déficit dans les clous du pacte européen de stabilité et faire baisser les prélèvements obligatoires, car le temps des hausses d'impôts est terminé. Il s'agit aujourd'hui de réduire le train de vie de l'État. Mais attention, sans faire des coupes budgétaires aveugles, promet le président de la République. Je propose, dit-il, de redéfinir les principales missions de l'État et de revoir nos mécanismes de redistribution pour les rendre plus justes, plus écologiques et plus efficaces. Plus juste, plus écologique, plus efficace. Un triptyque qui rappelle celui formulé quelques jours plus tôt par le même François Hollande lors de ses vœux du 31 décembre, évoquant cette fois un État trop lourd, trop lent, trop cher. Propos surprenant d'ailleurs dans la bouche d'un ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors ce soir, c'est de cette approche dont nous allons débattre. Trop lourd, trop lent, trop cher, de quoi l'État social est-il coupable? C'est donc notre sujet du jour. Et deux invités seulement ce soir pour débattre de cette question. Cécile Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice générale de l'Institut Molinari que vous avez créé en 2003, du nom de Gustave de Molinari, dont j'ai appris en préparant l'émission que c'était un économiste et journaliste franco-belge, c'est bien ça?
Absolument, absolument. Et c'est pour ça qu'il m'a inspirée, puisque notre mission à l'Institut, c'est justement d'essayer d'expliquer les problèmes économiques de façon relativement simple, c'est-à-dire des personnes non expertes, donc de le traduire dans un langage pas trop académique, relativement accessible et donc pour permettre à tout le monde de participer au débat.
Alors je ne sais pas si nous aurons l'occasion de faire appel à la mémoire de Gustave de Molinari lors de cette émission, mais ce sera peut-être une autre figure de l'histoire de la science économique à laquelle nous ferons appel, Friedrich Hayek, puisque l'Institut Molinari, organisé en octobre dernier dans cette belle ville de Troyes, la troisième édition de son université d'automne en économie autrichienne, université d'automne en économie autrichienne, il n'y a pas que Friedrich Hayek. Enfin, c'est notamment lui qui pourrait nous intéresser ce soir de par sa conception de l'État que ne partage peut-être pas notre deuxième invité qui est un des fondateurs du collectif Roosevelt 2012, donc sans doute plus tenté par une approche keynésienne de l'économie. Vous l'avez fondé ce collectif Roosevelt 2012 avec Edgar Morin et Stéphane Hessel. Bonsoir Patrick Vivray.
Bonsoir.
Économiste et philosophe, le collectif, pour en redire un mot, considère, ce qu'on peut lire sur le site encore aujourd'hui, que la crise n'est pas celle de l'État-providence, mais du capitalisme dérégulé. Je précise que vous avez publié au Lien qui libère en 2012 la cause humaine du bon usage de la fin du monde. D'un monde.
C'est pas la même chose.
Non, c'est pas tout à fait la même chose, en effet. Vous aviez été chargé il y a quelques années d'une mission d'évaluation des politiques publiques par le gouvernement Rocard.
Michel Rocard, oui.
Et puis vous aviez récidivé sous le gouvernement Jospin pour une mission.
Une mission sur une autre approche de la richesse.
Alors avant de vous demander si vous partagez ou pas le diagnostic que faisait le président de la République sur la lourdeur, la lenteur et le coût de l'État, j'aimerais d'abord avoir votre point de vue sur la disparition, me semble-t-il, d'un ou deux termes qui étaient extrêmement présents pourtant dans le débat public il y a quelques mois. Je veux parler de la rigueur et de l'austérité. Suite à la conférence de presse de François Hollande et suite à ses vœux du 31 décembre, alors on a beaucoup parlé du tournant social-démocrate, s'agit-il plutôt d'un tournant social-libéral? On a beaucoup parlé du pacte de responsabilité, de la volonté affichée de réduction extrêmement forte de la dépense publique. Mais il me semble que les termes de austérité et de rigueur ont un petit peu disparu. Est-ce que vous partagez ce constat, Patrick Vivret, et est-ce que ça pourrait signifier que ce ne sont pas des termes pertinents pour qualifier la direction qui est prise aujourd'hui ?
D'une façon générale, les termes qu'on emploie, que ce soit ceux des acteurs politiques eux-mêmes ou que ce soit ceux de la presse, ne sont pas forcément bien adaptés. Par exemple, on a beaucoup parlé à l'occasion de l'intervention du président de la République d'une posture social-démocrate. Quand on regarde ce qu'est l'histoire et les éléments théoriques de la social-démocratie, c'est très très différent, la social-démocratie. Vous parlez d'austérité et de rigueur, c'est différent également. Par exemple, la rigueur, moi j'ai été beaucoup inspiré par Pierre Mendès France, mais la rigueur, c'était toujours une rigueur au service de la justice et de la transformation sociale. L'austérité, c'est des politiques qui conduisent au contraire à de la régression sociale. Donc c'est important de voir de façon plus précise aussi ce que l'on met derrière ces mots.
Mais alors dans ces mots-là, est-ce qu'il y en a un qui vous conviendrait davantage pour essayer de qualifier la politique qui est désormais menée par le gouvernement français ?
Mais je crains, hélas, que ce soit plus près de l'austérité et de la régression sociale que de la rigueur mendésiste au service de la justice sociale. C'est-à-dire, quand vous citez ces deux propos du président de la République, le deuxième propos sur la justice, l'écologie et une efficacité qui soit au service de la justice sociale et de l'exigence écologique, j'aimerais beaucoup que la politique globale et notamment la politique économique soit en cohérence avec ces objectifs-là.
Alors Cécile Philippe, comment est-ce que vous caractériseriez cette politique et est-ce que, même question en fait qu'à Patrick Vivret, la disparition dans le débat public de ces notions de rigueur ou d'austérité alors que ça semble quand même coller avec ce que l'on qualifiait, en prenant exemple d'autres pays européens jusque-là, ça semble quand même coller à ce qui est décidé aujourd'hui. Vouloir diminuer la dépense publique de 50 milliards d'euros minimum sur 3 ans, Ça y ressemble.
Vous avez raison d'insister sur ce choix de mots parce qu'en fait, vous venez de m'y faire réfléchir et c'est extrêmement important parce qu'effectivement, l'austérité, en fait, il faut se rappeler qu'on en a surtout parlé dans le cadre donc de l'Union européenne et de ces fameux critères de Maastricht qu'il faut absolument respecter, les 60% maximum de dette en pourcentage du PIB et les fameux 3% de déficit. Et c'est dans ce cadre-là que l'austérité prenait sens puisque l'austérité, ça voulait dire les politiques qui doivent permettre de réduire le déficit. Or, pour réduire ce déficit, c'est-à-dire pour améliorer les finances publiques, vous avez toujours deux méthodes. Vous avez celle de l'augmentation des recettes fiscales ou celle de la baisse des dépenses publiques. Or, ce qu'on a observé, y compris à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, puis au début du mandat de François Hollande, c'est que l'austérité a surtout été fiscale. Et elle a d'ailleurs débouché sur ce fameux ras-le-bol fiscal donc de la fin de 2013. Et on a très peu finalement parlé de la baisse des dépenses publiques. Et maintenant, on passe dans un nouveau... on semble passer dans un nouveau cap, celui de véritablement parler de la baisse des dépenses publiques. Et je dirais que ce n'est pas du tout la même chose du point de vue économique. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau des incitations individuelles de prendre de ce que les gens produisent et ce qu'ils pourraient consommer librement.
Ça veut dire que ça peut aussi ne pas être ressenti de la même manière et ne pas être ressenti comme appartenant à cette politique d'austérité, c'est-à-dire on ressent davantage quand il y a des hausses d'impôts que quand la dépense publique baisse, même si on en subit aussi les conséquences.
Je dirais même que ça part d'une philosophie tout à fait différente et justement vous avez donné le thème de ce débat sur le rôle de l'État, c'est exactement ça, c'est-à-dire que à partir du moment où vous parlez de la baisse de la dépense publique, vous questionnez le rôle de l'État à se substituer à l'individu pour tout un ensemble de choix, alors que quand vous faites l'austérité dite fiscale, c'est-à-dire que vous considérez bien que les revenus des individus doivent toujours passer par la case État. Donc vous voyez, vous avez vraiment une philosophie tout à fait différente dans un cas et dans l'autre.
Vous êtes d'accord avec ça, Patrick Vivret, choisir de la politique fiscale ou la politique de réduction de la dépense publique, ça induit une philosophie différente.
Sur ce point, oui, je suis d'accord. Si on aura l'occasion, j'imagine, avec Cécile, de construire nos désaccords. En tout cas, j'espère que justement, on n'est pas dans un combat de catch. Mmh. Y compris, c'est intéressant parce qu'avant que commence l'émission, je sais son intérêt et son estime pour Hayek et je lui posais la question, est-ce qu'elle a le même intérêt et la même estime pour Friedman, Milton Friedman, qui en général les deux sont complètement associés, et elle me disait non, pas du tout. Et c'est intéressant, j'en suis heureux parce que personnellement, entre la route de la servitude de Hayek et son exigence de liberté et puis l'attitude de Milton Friedman qui au moment de la dictature Pinochet a animé le groupe des Chicago Boys, il y a plus qu'une différence. Donc vous voyez, il y a des points sur lesquels on peut être, je dirais, méthodologiquement en accord. Mais moi, je situe d'emblée la question, surtout quand on parle d'État social, dans un cadre plus large que le seul problème exprimé en termes monétaires. Si vous prenez une question telle que la santé, par exemple, la santé globale d'une population, comme la santé individuelle, elle ne se trouve exprimée que d'une façon extrêmement réductrice par l'intervention, par exemple, des dépenses de santé. C'est même des fois le contraire. C'est-à-dire, si vous prenez des indicateurs macroéconomiques classiques tels que le produit intérieur brut, c'est une très mauvaise chose que les gens soient en bonne santé, parce que ça ne fait pas progresser le PIB. Inversement, et les laboratoires pharmaceutiques sont très heureux que les gens soient malades, parce que c'est une source de progression de leur profit monétaire.
Donc on ne peut pas réduire l'état des lignes comptables.
On ne peut pas réduire l'état, et surtout pas l'état social, à des lignes comptables. Et quand vous reposez la question, y compris quelles sont les missions fondamentales de l'État, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a deux missions fondamentales. Une qui concerne la paix, et y compris dans la paix, s'attaquer à la démesure des marchés financiers, on aura peut-être l'occasion d'en débattre, qui font aujourd'hui peser une menace majeure sur la paix de nos sociétés est un enjeu du côté de la paix. Construire ce que Montesquieu appelait le doux commerce, c'est-à-dire une économie au service de la pacification des sociétés et non pas une économie régie par l'obsession compétitive et la guerre économique. Et puis l'avenir, quand on parle de l'avenir de nos enfants, quand on parle de l'éducation, Cécile est arrivée en parlant de sa petite fille. Ben, du point de vue des vraies richesses...
On va tout savoir de ce qui s'est passé
avant
l'émission.
Mais pourquoi pas ? Non mais ça n'a rien de, je pense, mais je
non,
trouve ça
pas confidentiel,
je trouve ça intéressant.
Non,
parce que quand j'avais fait ce rapport pour le gouvernement Lionel Jospin sur une nouvelle approche de la richesse, ça consiste justement à dire la richesse d'un pays, en aucune façon, elle ne peut se réduire à l'expression monétaire de cette richesse qui représente à peine 10% des richesses réelles d'un pays. Donc c'est tout ça dont il faut parler.
Oui. Elle ne peut se réduire à ça, Cécile.
Absolument.
Philippe, mais soyez pas trop d'accord non plus.
Mais hein, oui, là on risque d'être d'accord, mais je pense que je vais montrer mon désaccord sur le...
Ça reste quand même important de prendre en compte ces données-là, même si elles ne sont pas exclusives.
Oui,
elles sont quand même essentielles, non, pour vous ?
Bien sûr qu'elles sont essentielles, et elles sont essentielles pour des raisons institutionnelles. C'est-à-dire que vous parliez de la santé à l'instant, et évidemment que la santé ne se réduit pas à des questions d'argent, et je serai la première à critiquer très vertement l'ONDAM, ce fameux objectif national des dépenses de l'assurance maladie, parce que c'est une maîtrise comptable des coûts absolument aveugle. Mais pourquoi il faut se poser la question de pourquoi on s'intéresse à ces chiffres-là et pourquoi est-ce qu'on met en place une maîtrise comptable des coûts. Pourquoi
besoin d'indicateurs.
Exactement. Pourquoi on se fiche complètement de ce que les gens... Enfin, pas complètement, pour certains, ça va être intéressant, mais de ce qu'on dépense en matière de pain, de ce qu'on dépense sur toutes sortes de produits alimentaires. On se moque parce que, en fait, à la différence de la santé, ça ne génère pas de déficit, ça ne génère pas de dette et ça n'entraîne pas... Un déséquilibre profond des finances publiques. Et j'ai envie de dire, et j'ajouterai en matière de santé, ça n'entraîne pas une étatisation croissante du système de santé. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que comme Eh ben, il faut rappeler cette vérité toute simple, c'est que l'État n'a d'argent que ce qu'il prélève sur les contribuables. Eh bien, quand vous creusez des déficits, il faut de plus en plus de recettes, donc de plus en plus ponctionner les gens, et ça a toutes sortes d'impacts économiques extrêmement préjudiciables pour une société. Et c'est dans ce contexte institutionnel qu'il faut prendre en compte certains indicateurs, mais pas faire n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais vous dire, c'est très important ces déficits en santé, parce qu'il témoigne d'un vrai problème de gestion de la santé, mais c'est pas en mettant en place des mécanismes de maîtrise comptable des coûts qu'on va résoudre la question.
Néanmoins, est-ce que vous dites quand même qu'il y a nécessité de réduction de la dépense publique, parce que, pour reprendre alors, puisque c'est aussi ce qui a inspiré le titre de cette émission, pour reprendre les propos de François Hollande, parce que l'État aujourd'hui est devenu trop lourd, trop lent et trop cher.
Absolument. C'est-à-dire qu'il en fait trop, et je dirais même qu'il en fait beaucoup trop. Par contre, là où il ne faut pas se tromper, c'est que le chiffre de 50 milliards, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de se dire de combien on va dépenser, ce n'est pas le problème de se dire on va créer 1 million d'emplois. Vous voyez, tous ces chiffres qui sont vraiment que de la com politique, quand en fait, la vraie question fondamentale, c'est de se dire que doit faire l'État ? Quelles doivent être les prérogatives de l'État et que doit-il redonner, rendre à l'initiative privée, aux échanges consentis, au marché en définitive. Donc je pense que c'est ça la vraie question. Et vous voyez, quand on regarde ce qui s'est passé par exemple au Canada dans les années 90, pendant 10 ans avant la grande réforme canadienne, ça a été les débats actuels, c'est-à-dire coupes budgétaires sous coupes budgétaires. Ils ont multiplié les coupes budgétaires et à chaque fois, elles étaient plus démoralisantes les unes que les autres. Et c'est qu'à partir du moment où ils ont considéré que la baisse des dépenses publiques, c'était un projet de société, c'était de savoir quelle est la mission de l'État, qu'effectivement, ils ont pu résoudre le problème de savoir que fait l'État et comment on réduit son emprise sur tous les aspects économiques de la société.
Alors vous allez nous dire dans un instant, Cécile Philippe, en quoi vous considérez que l'État, aujourd'hui, en fait trop. Mais je me tourne à nouveau vers Patrick Vivray pour aussi avoir votre avis sur ce diagnostic présidentiel d'un État trop lourd, trop long et trop cher. Est-ce que vous partageriez cette fois-ci le point de vue de Cécile Philippe qui considère que l'État en fait trop aujourd'hui ?
Alors, d'abord, on ne peut poser la question de critères d'évaluation tels que la lourdeur, la lenteur ou la cherté qu'au regard justement des missions qu'on assigne à l'État. Si on considère par exemple que la question de la préparation de l'avenir, donc les enjeux éducatifs, le fait de favoriser une espérance de vie en bonne santé est importante. Si on considère que ça fait partie des missions de préparation de l'avenir, on va dire aussi qu'il est nécessaire d'en prendre les moyens. Donc vous voyez, les critères de lourdeur, de lenteur et de cherté, ils doivent être référés aux missions. Moi, je serais prêt à dire que sur bien des points, on a un État qui est trop lourd et trop lent, mais surtout, je dirais qu'il est inadapté à des nouvelles missions dans lesquelles l'un des enjeux majeurs de nos sociétés, c'est une politique des temps de vie. C'est-à-dire, on a des sociétés dans lesquelles la part de ce qu'on appelle l'activité au sens économique et statistique du terme, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10% du temps de vie. Donc, si on concentre toute la question sur ces 10%, le moment, en gros, où les gens travaillent au sens classique du terme, on fait complètement l'impasse sur l'accompagnement de la naissance, la petite enfance, l'éducation, les temps dits de retraite qui sont en fait des temps où les personnes peuvent être extrêmement contributives sur le plan social. Parce qu'il y a deux façons de sortir de l'étatisme. Il y a sortir de l'étatisme uniquement par la privatisation et le marché, mais vous avez aussi sortir de l'étatisme par les approches qui sont du côté de la société civile, qui redonnent à la société civile sa responsabilité.
Donc le monde associatif, par exemple.
Le monde associatif, par exemple. Et on n'est pas condamné au système binaire de dire soit étatisme, soit privatisation intégrale. Moi, j'ai appartenu dans les années 70 à toute l'approche de ce qu'on a appelé avec Michel Rocard et mon maire le courant autogestionnaire. Donc on était très critique à l'égard de la bureaucratie, à l'égard l'égard de l'étatisme, mais on était aussi tout à fait critique à l'égard des approches du tout marché, hein, ce que Polanyi avait appelé les sociétés de marché. Donc là, on peut aller effectivement vers une plus grande responsabilisation sociale de la société, mais dans une exigence de solidarité, parce que mon point de débat, c'est que, y compris qui fait le lien entre les questions de type dépenses publiques et puis les effets sur les terrains tels que la santé en dehors des dépenses, c'est quand vous avez à avoir, par exemple, une réduction croissante, mettons par exemple des dépenses pour les hôpitaux, eh bien, ça se traduit concrètement par le fait que le problème des urgences, qui est déjà dramatique aujourd'hui, le sera de plus en plus important. Moi, j'ai mon frère qui a été hospitalisé aujourd'hui. On le renvoie dès demain, et pas du tout pour des raisons médicales, mais uniquement pour des raisons de pression de rentabilité. Et là, vous avez à terme une vraie régression sociale, une vraie régression en termes de qualité de santé.
Oui, mais alors votre exemple, c'est exactement ça. C'est que l'État en fait trop. C'est-à-dire que, vous voyez, la santé...
Ça veut dire quoi, en faire trop, alors c'est ça.
En faire trop, je vais vous dire, enfin, on pourrait en discuter pendant des heures de savoir pourquoi l'État en fait trop. En fait trop, c'est l'inflation législative. C'est le fait qu'aujourd'hui, les Français sont régis par 11 000 lois, 130 000 décrets, qu'il y a 10% des lois qui changent tout le temps. Vous voyez, on est dans un contexte où l'État va intervenir dans tous les domaines de l'économie, dans tous les domaines de la vie des individus. Hein, quand je parle de l'économie, c'est aussi la vie sociale, etc. Et je pense qu'on ne peut plus citer un seul domaine dans lequel l'État ne donne pas ses règles, ses modes de fonctionnement. La loi vous dicte ce que vous devez faire. C'est ça.
Oui, mais moi, je le comprends aussi comme l'État aide trop, c'est-à-dire intervient trop aussi financièrement. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut le comprendre ?
Mais absolument, c'est aussi comme ça. Et je dirais que c'est aussi en termes de producteurs. C'est-à-dire que l'État, et puisqu'on parle de santé, peut-être la santé, c'est pas exactement l'exemple le meilleur, mais quand même, vous parliez des hôpitaux, ben voilà, les hôpitaux publics. En quoi le fait de vouloir aider, par exemple, les personnes les plus démunies, doit-il passer par l'hôpital public ? Doit-il passer par un monopole dans l'assurance maladie ? Vous voyez,
vous voulez revenir au monde d'avant la sécurité sociale, par exemple, où on était plus dans une démarche d'assistanat que justement de...
Vous voyez, en fait, voilà, on va parler d'AIEC. Hein,
allons-y.
Et voilà, la raison pour laquelle je pense que Friedrich Hayek a apporté beaucoup d'éléments à l'économie, c'est justement par cette notion de concurrence. C'est-à-dire qu'en rappelant que la concurrence, elle était essentielle, et elle est essentielle dans tous les domaines, parce qu'elle permet justement de sélectionner les bons projets, de sanctionner les mauvaises méthodes, les mauvaises règles, etc. Dès lors que vous avez un monopole, comme par exemple dans l'assurance maladie, et c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, nous, on a un système de santé qui est encore extrêmement performant. Vous prenez votre téléphone, vous avez un rendez-vous directement chez le médecin. Je l'ai bien vu pour les pédiatres. Je veux dire, au Canada, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont un système 100% étatisé. Et eux, ils gèrent les files d'attente. Vous voyez, et en 2005, vous avez quand même la Cour suprême du Canada qui a reconnu dans un arrêt historique que les gens mouraient dans les files d'attente. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une gestion publique de la santé, vous allez forcément vous heurter au problème du rationnement puisque les ressources sont limitées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît ces données économiques de base, les ressources sont limitées, on ne peut pas les allouer partout. Il va falloir faire des choix. À partir du moment où on refuse de faire le choix par exemple, la coordination, par les prix, par la concurrence, etc. Eh bien, on le fait par décret, on le fait par des maîtrises comptables des coûts, on le fait par des rationnements, par les files d'attente, etc. Et donc, c'est ça que je veux, sur lequel je veux insister. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on passerait à la concurrence, c'est pas parce qu'on utiliserait les systèmes de prix qu'on va forcément abandonner les plus démunis. D'ailleurs, Hayek, dans La route de la servitude, le rappelait, c'est-à-dire le filet de sécurité minimale, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on doit avoir un État producteur, un État intervenant dans tous les domaines et c'est ça le vrai. Vous voyez, la sphère étatique qui prend beaucoup trop de place. Et ça se traduit dans les chiffres. Vous me parliez des chiffres tout à l'heure. Ben oui, les chiffres sont là. 50% de recettes publiques en termes de PIB, des dépenses publiques qui ont dépassé 56% du PIB, etc. Vous voyez, ça se traduit aussi dans les chiffres.
Bon, en même temps, Patrick Vivret, la sphère étatique, si elle n'est pas là. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, le monde associatif, qui peut aussi permettre de sortir de cette effectivement concurrence hein, qui peut y avoir entre deux approches de la société. Mais s'il n'y a pas la dépense publique, le monde associatif, il va avoir du mal à prendre le relais de l'État. Donc, de toute manière, ça ne règle pas la question de savoir s'il y a nécessité d'avoir une dépense publique importante aujourd'hui et de savoir si questions alors de chiffres, justement, de déficit budgétaire, par exemple, justifient le fait qu'on réduise d'autant la dépense publique, en tout cas qu'on cherche à la réduire d'autant.
Alors, il y a deux aspects quand on parle de dépenses publiques, parce qu'il y a quand même un point qui est absent de notre débat, or qui historiquement joue un rôle très important, c'est que la question obsédante des déficits publics, et en particulier en Europe au cours de ces dernières années, elle est quand même directement liée au sauvetage du système bancaire par les États en 2008. Hein, c'est-à-dire la formidable socialisation de la catastrophe provoquée par la démesure de la sphère financière. Donc au minimum, et c'est ce que j'aurais personnellement attendu du président de la République, c'est qu'il établisse un lien entre les deux diagnostics qu'il avait posés à l'occasion de sa campagne électorale, c'est-à-dire le diagnostic de la démesure financière, qui, elle, n'a pas été réduite, elle s'est même aggravée. Si je lis quelqu'un comme Nicolas Bavrès, qui est plutôt un intellectuel du côté des courants conservateurs, il est vent debout contre le fait qu'on ne fait rien contre la démesure financière. Si je lis Jean-Michel...
Et qu'on ne fait rien pour réduire la dette,
voilà.
Finalement.
Oui, mais... Une grande partie de la dette financière, c'est de la dette sociale inversée. Hein. Michel Rocard, qui ne passe pas pour un radical utopiste, met en évidence, justement dans son livre avec Pierre Larouturou, qu'il y a eu 40 000 milliards de dollars qui, au cours des 35 dernières années, sont passés des revenus du travail vers les revenus du capital. Bon, à l'époque où j'étais à la Cour des comptes, on avait mis en évidence que sur 10 ans, vous avez 100 milliards d'euros qui avaient bénéficié aux catégories les plus aisées et au détriment des catégories les plus modestes. Donc quand François Hollande diagnostiquait d'un côté, dans son fameux discours du Bourget, le problème de la démesure des marchés financiers, ce problème, il est toujours réel, il s'est aggravé. Jean-Michel Nolot, banquier, qui a été pendant 10 ans à l'autorité de régulation des marchés, vient d'écrire un livre intitulé « Pourquoi les gouvernements ne font rien ?»
Voilà, il est venu en parler sur France Culture.
Justement,
hein,
bon, et c'est pas un alternatif, c'est un ami de Michel Barnier. Donc la question.
Donc ce diagnostic-là, il est toujours valable.
Ce diagnostic-là, il est toujours valable. Et deuxième élément de François Hollande quand il était candidat, c'est la question de la justice. Hein, la justice sociale. Or, on ne peut pas traiter les problèmes aujourd'hui de l'état social des dépenses sociales, des dépenses publiques, si on n'établit pas au minimum un rapport avec qu'est-ce qu'on fait sur la démesure financière, qu'est-ce qu'on fait sur la justice. Il y a un enjeu très simple entre les deux, ça s'appelle la fraude fiscale. Hein, on cherche 50 milliards, rien qu'en France, la fraude fiscale, c'est entre 60 et 100 milliards. Au niveau européen, c'est 1000 milliards d'euros annuels.
Et si on cherchait ces solutions-là, on ne se poserait peut-être plus, en tout cas beaucoup moins, la question, par exemple, des déficits budgétaires et de la dette.
C'est-à-dire, on se les poserait par rapport au fond, parce que moi, je considère effectivement que quant au fond, on a des systèmes qui sont aujourd'hui inadaptés, parce qu'on a besoin de les penser sur une politique globale des temps de vie et non pas sur les 10% de prétendue activité, mais on arrêterait de se les poser dans l'urgence et sous la contrainte et sous le diktat de la logique financière.
Alors Cécile Philippe, c'est peut-être pas l'État qui est trop lourd et trop cher, mais c'est peut-être ceux qui sont d'une certaine manière les prédateurs de l'État qui profitent du système et qu'il faudrait combattre avant de combattre, de chercher à combattre voilà, cette lourdeur et cette présence un peu trop importante de l'État.
Bah écoutez, je suis contente qu'on puisse en parler. C'est pas souvent qu'on peut parler des questions monétaires sur des plateaux, parce qu'effectivement, là, je serais tout à fait d'accord. C'est que, en définitive, toute la question sur le déficit, la dette, elle pose la question de la crise financière et de ses origines. Et là-dessus, les économistes, justement, donc dans la lignée de Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, etc., qui sont dits les économistes autrichiens, eh bien sont justement, je dirais, des grands spécialistes de ce fameux cycle économique. Friedrich Hayek a obtenu son prix Nobel en 1974 pour ses apports en la matière. Et c'est-à-dire qu'eux, ils expliquent le phénomène du cycle économique, hein, du boom suivi du bust, et donc qui sont à l'origine de cette crise dans laquelle on est toujours. Et vous avez raison de dire qu'on est loin d'avoir résolu les problèmes liés à cette crise financière. Eh bien, c'est que ce cycle économique, il est lié au problème monétaire qui lui-même vient de la fin de... Enfin, on pourrait dire, vient en partie de la fin de l'état d'or, c'est-à-dire du fait que les monnaies aujourd'hui sont totalement gérées par des monopoles en la matière. Le monopole de la monnaie appartient à la puissance publique, hein. C'est ce qu'on appelle une des missions régaliennes de l'État, hein, que de frapper monnaie.
Et Hayek, il était plutôt pour une privatisation.
Il était pour une concurrence dans les monnaies, hein, c'est-à-dire une véritable concurrence à laquelle aujourd'hui on n'assiste pas. On est dans un système monétaire dans lequel il est extrêmement facile de créer de la monnaie. Et d'ailleurs, il en est créé des quantités absolument astronomiques et qui sont à l'origine de ces fameux cycles économiques. Et donc,
on n'est pas allé assez loin dans la libéralisation de l'économie ?
Ah bah oui, absolument, parce que vous vous rendez compte de ce à quoi on est arrivé, hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ce qu'on appelle la collectivisation des pertes avec la privatisation des gains. C'est-à-dire que vous avez une monnaie et vous avez des banques qui ont été dérégulées dans un système dans lequel, en fait, la monnaie est complètement régulée, en définitive, complètement réglementée. Et par conséquent, vous avez tous les effets pervers de ce qu'on appelle la tragédie des communs, vous savez. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à exploiter la ressource, puisque de toute façon, il n'en supporte pas les coûts, au bout du compte. Donc finalement, et j'ai envie de dire, c'est de ce problème-là, dans la gestion monétaire, il est exactement de même nature que ce que j'essayais de décrire à propos de la santé, ou ce qu'on pourrait dire à propos du système de retraite en France, ou à propos même du marché du travail, ou encore même maintenant de la gestion des risques technologiques, puisque maintenant on a une gestion collective du risque technologique avec le principe de précaution. Vous voyez, tout ça, c'est de la même nature. C'est de la nature de collectiviser à chaque fois la gestion du risque, qu'il soit maladie, qu'il soit retraite, qu'il soit monétaire, ou encore qu'il soit technologique. On a toujours ce problème-là au milieu de la table, à savoir est-ce que la gestion publique est plus efficace qu'une gestion privée. Et je mets dans la gestion privée tout ce qui est associatif, tout ce qui est... Vous avez raison de mentionner qu'il n'est pas que question d'entreprises à but lucratif, mais il y a aussi toutes les associations à but non lucratif, etc., qui font partie de la société civile.
Donc il faut aller vers une décollectivisation, Patrick Vivret. Si vous dites que vous êtes d'accord avec ça... Dit, ben voilà, on aura réussi à réconcilier. Enfin, réconcilier, vous n'étiez pas fâché, hein, bien entendu.
Mais absolument
enfin,
bon. Non,
puis, justement, ce qui est intéressant, et on voit bien, quand on a un vrai débat et pas un combat de catch binaire, c'est pas, on n'a pas besoin de se réconcilier ou de se mettre d'accord, parce qu'à travers ce que dit Cécile Philippe, j'ai des vrais points de débat. Mais on voit bien, au passage, qu'on identifie des points, soit sur lesquels on n'est pas dans une logique binaire, hein, du type étatisme ou pure privatisation. Quand vous dites, bah, oui, je reconnais que le monde associatif, par exemple, l'économie sociale est solidaire.
Mon association, hein, vous savez.
En Europe, c'est une association. C'est là qu'on a créé 10 millions d'emplois. C'est là qu'il y a le plus d'emplois qui a été créé. Et c'est une économie qui n'est pas une économie lucrative. Elle fait des profits au sens technique du terme, mais elle les réinvestit au service de son objet social. Donc on voit bien qu'il y a des points de débat, mais qui permettent d'avancer quand on sort d'une logique binaire. Là où je ne me retrouverai pas dans votre formule, que je trouve à ce moment-là réductrice, de « faut-il la décollectivisation ?», c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va vers des sociétés plus solidaires. Je ne crois pas que la bureaucratie soit un gage de solidarité. Je ne crois pas non plus que la privatisation soit un gage de solidarité. C'est pour ça que les recherches de type troisième voie sont, à mes yeux, tout à fait importantes. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de construire des sociétés beaucoup plus solidaires et en même temps beaucoup moins bureaucratiques. Et vous citiez le collectif Roosevelt, j'appartiens aussi au Pacte Civique, il y a une initiative qui les relie qui s'appelle les États généraux du pouvoir citoyen et qui dit justement, nous sommes dans une situation où nous avons besoin que la société non seulement civile mais civique prennent ses responsabilités parce que sinon on est engagé dans ce match de catch entre soit le tout marché, soit le tout État, et ça, ça nous amène vers de la régression sociale et démocratique.
Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression que parfois les termes de marché et de privatisation sont mal compris parce que le terme de marché, c'est, moi j'ai envie de dire, c'est simplement le lieu où se passent des échanges volontaires et consentis en fait, et qu'il y ait que ce soit des échanges monétaires ou pas. Mais vous voyez, il y a cette notion extrêmement importante du consentement volontaire. Et pour moi, c'est ça la nature, vous voyez, qui va opposer un État à un marché, en fait. C'est vraiment cette différence-là.
Et ça prouve aussi que c'est important de se mettre d'accord sur les termes et d'avoir une approche un peu dépassionnée, comme vous l'avez prouvé ce soir, à la fois du diagnostic et des solutions qui peuvent être proposées. Terrain sur lequel vous rencontreriez sans doute une autre économiste, en l'occurrence Mathilde Lemoine, qui dirige le département des études économiques d'HSBC France. Elle aussi, elle plaide pour une évaluation dépassionnée et neutre du sujet qui nous occupe ce soir. Et sans quoi, dit-elle, les objectifs chiffrés n'ont aucun sens.
On est incapable de dire quelle est la taille optimale de l'État. Personne ne sait si le ratio de dépenses publiques c'est 55, 56, 35, 12. Le chiffre même du montant de dette publique n'a pas tellement de sens.
Alors, personne ne sait et pourtant il faut bien trancher.
C'est le rôle du politique. Mais pour ça, il faut l'éclairer avec une évaluation de l'impact des politiques économiques. Et je crois que si on reste au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau des grandes intentions, des généralités, on n'y arrivera jamais. Et il me semble qu'il y avait une disposition législative qui imposait des études d'impact des lois. Ça n'est pas fait et je pense que ça serait un premier pas qui permettrait déjà d'avoir une meilleure idée des conséquences de ce que le législateur décide. Et la deuxième chose à faire de façon urgente, c'est comme le font, je dirais, les entreprises, c'est qu'il y ait des audits plus généralisés qui soient rendus systématiquement publics et qui permettent aussi d'établir ensuite, éventuellement, avec les partenaires sociaux, un constat partagé et qui permettent ensuite de mettre en place des mesures pour faire en sorte que les politiques qui sont menées aient l'efficacité attendue. Je prends l'exemple de l'allocation logement. L'INSEE, dans une étude, a montré que l'allocation logement ne permettait pas aux locataires de bénéficier de logements moins coûteux, puisque immédiatement, quand l'allocation logement était augmentée, ça se traduisait par une hausse des loyers. Donc là, typiquement, on voit une politique publique qui ne touche pas les personnes qu'elle devrait toucher.
Voilà, Mathilde Lemoine, interrogée par Mélanie Chalande. On est presque au bout de l'émission, Patrick Vivray et Cécile Philippe. Mathilde Lemoine parlait de diagnostic partagé, de façon à ce qu'on puisse aussi avoir des données qui permettent d'aller vers des politiques peut-être un peu plus consensuelles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais pour avoir des diagnostics partagés, il faut avoir des outils de mesure qui font l'unanimité. Or, est-ce que les outils de mesure sont neutres, Patrick Vivray? Et est-ce qu'il ne faut pas commencer par là, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on veut mesurer pour ensuite décider des politiques à suivre?
Vous savez que vous rappeliez que j'avais fait une mission sur l'évaluation des politiques publiques et j'avais proposé qu'on entende le mot évaluation dans son sens fort, c'est-à-dire c'est une délibération sur ce qui fait valeur. Et le mot valeur, en latin, il veut dire la force de vie. Donc on ne peut pas du tout réduire, par exemple, la valeur à son expression monétaire, le value for money des anglo-saxons. Donc là où il y a un diagnostic partagé qui est important, moi c'est ce que j'appelle un audit des richesses réelles. Par exemple, c'est sur un territoire, partir des richesses réelles, notamment sur le plan écologique, sur le plan social, partir des nuisances effectives et réinventer ce qui est l'origine des termes de la comptabilité. Bénéfice, ça ne veut pas dire solde monétaire positif, ça veut dire activité bénéfique bien fait. Où sont les activités bénéfiques pour les humains et la nature? Où sont les activités nuisibles? C'est ça l'audit des richesses réelles.
J'espère que vous êtes d'accord, Cécile Philippe, parce que vous n'avez plus vraiment le temps de dire que vous êtes contre.
Vraiment, c'est un peu piégeant parce qu'effectivement, le débat est énorme. Moi, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, effectivement, les richesses, c'est pas que monétaire, mais ça l'est aussi parce qu'on est dans des sociétés extrêmement complexes et qui ont besoin de la monnaie pour pouvoir calculer, pour pouvoir s'organiser. Et que, évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est avant tout de pouvoir gérer sa vie et sa destinée, et qu'il faut se responsabiliser, et que c'est trop de déresponsabilisation que de laisser tout faire à l'État.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion. Cécile Philippe, donc directrice générale de l'Institut économique Molinari. Patrick Vivray, je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, La cause humaine du bon usage de la faim d'un monde. Ou bien qu'il libère, c'était en 2012. Merci beaucoup, vos commentaires, c'est sur notre site.